Economica, Anne Isla,
Jacques Lavergne, bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Économie. Bonsoir Anne, heureux de vous retrouver autour du micro. C'est un peu compliqué dans cette période où tout le monde avait le Covid, des cas contacts, des maladies diverses. Donc ça entraîne un peu des ruptures de rythme dans nos émissions, mais nous allons tenir bon, bien évidemment. Allez, on commence par une citation comme d'habitude. Les moyens de production, la science et la technique, bien qu'ils tendent à se répandre à travers les continents, divisent l'humanité autant qu'ils l'unissent. Et c'était de Raymond Aron, ça vous inspire Anne ?
Oui, ça m'inspire. Divise l'humanité autant qu'ils l'unissent, voire beaucoup moins qu'ils l'unissent. Non, à part la culture qui unit les hommes, la technique est bien loin derrière.
Bien, alors aujourd'hui, on va parler de l'entreprise. Vous allez nous expliquer ce qu'est une entreprise. L'entreprise et surtout la relation au travail. Bien, si une entreprise sans travail, ça ne fonctionne pas. Mais nous allons commencer par quelques brèves. Alors, j'ai trois brèves que vous nous commenterez éventuellement. Donc EDF qui reçoit 2,1 milliards d'euros de l'État sur une augmentation de capital qui en comprendra 2,5. Une première étape, mais comme on dit chez EDF, insuffisante pour restaurer ses comptes et réinvestir dans l'avenir. Air France, KLM qui est dans le rouge sombre avec évidemment le Covid, vous imaginez dans l'état financier dans lequel elle est, nous fait une petite perte du montant de 3,29 milliards et une activité qui est encore inférieure à la moitié de celle qu'elle eut en 2019. Donc il faudra des aides, elle prépare une récapitalisation de 4 milliards indispensable à sa survie et l'État qui détient 29% d'Air France KLM sera aux côtés d'Air France. Je cite là le propos de M. le maire qui rappelle aussi son soutien à Renault parce qu'on soutient aujourd'hui tout le monde. Renault d'ailleurs qui sort pas trop mal de la crise, enfin grâce surtout à Dacia, pas tellement à Renault. Donc la crise, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Eh bien, nous montre que l'intervention de l'État, qu'on appelle toujours en dernier recours, est un préalable au redressement financier des grandes entreprises. Alors l'Agence des participations de l'État, la fameuse APE qui surveille tout ça, qui veille au grain comme on dit, a inscrit sur un compte d'affectation spéciale 7 milliards pour 2022. Donc c'est dire que l'État a quand même quelques velléités de soutenir l'économie. Dans la campagne présidentielle, on n'a pas quand même entendu beaucoup de protestations contre ce pompier étatique qui était l'incendie. Mais si on revient au début de l'ère macronienne, elle nous semble bien loin, ce moment où le gouvernement affichait sa volonté de privatiser de grands groupes ou de s'en dégager plus avant. Tout ça est aujourd'hui terminé. L'État fait le banquier, Anne.
Et oui, l'État privatise les profits et socialise les pertes, comme depuis de nombreuses années.
Voilà, c'est une vieille règle.
C'est une vieille règle et on se désengage des sociétés qui rapportent, comme la Française des Jeux, par exemple.
Voilà, qui rapportait beaucoup de sous, on n'a pas très bien compris d'ailleurs pourquoi. Alors on faisait pareil pour ADP, aéroport de Paris, bon le Covid évitait qu'on le fasse. On a fait pareil pour l'aéroport de Toulouse, un peu plus proche de nous. C'est M. Macron, je crois, qui avait signé avant de parader dans les rues de Toulouse. On n'a pas très bien compris, d'autant qu'il a vendu à des Chinois. Quel Chinois d'ailleurs qui était aux affaires a complètement disparu. On ne sait plus, absolument plus où on en est, alors que l'aéroport de Toulouse était tout à fait bénéficiaire et vivait sa vie. Donc on n'a pas très bien compris quelle était, j'ai toujours pas moi compris, et je l'ai dit plusieurs fois à ce micro, quels étaient les motifs qui avaient présidé à cette décision, d'autant qu'il y avait quand même les collectivités locales, la région, la chambre de commerce, qui s'étaient positionnées pour reprendre, pour acheter l'aéroport, et on a préféré un Chinois chercher l'erreur.
Oui, je pense que c'est simplement une position idéologique.
Simplement. Oui, que nous pouvons regretter. Deuxième brève. Alors la France, en 2020, est le deuxième pays de l'Union européenne avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, puisqu'il représente 47,5% du PIB, soit plus de 6 points de plus que la moyenne en zone euro. Et dans ces prélèvements, vous avez ce qu'on appelle des impôts de production. Alors, qu'est-ce que c'est que des impôts de production ? Eh bien, c'est des impôts dont les entreprises doivent s'acquitter indépendamment de leur rentabilité, contrairement à l'impôt sur les sociétés, qui, lui, est un pourcentage qui s'applique sur les bénéfices. Mais là, ça tombe automatiquement, quels que soient les résultats de l'affaire. Donc, il pèse quand même énormément sur le coût de production des entreprises. On peut considérer que c'est un véritable frein pour la compétitivité française, notamment face à ses voisins européens. Et les données d'Eurostat placent la France parmi les « mauvais élèves » entre guillemets de l'Union européenne, puisque le poids de ces impôts de production dans le PIB est le deuxième plus élevé, donc 5,3, derrière la Suède qui, elle, plafonne quand même à 10,3. Donc, en valeur absolue, la France se classe toutefois première. Les impôts de production, ils pèsent plus de 120 milliards d'euros contre 27 milliards d'euros en Allemagne. La France, donc, est également, c'est l'autre volet, championne des subventions à ces mêmes entreprises. Selon un rapport de Génération Libre, elle se monterait, ses subventions, à 130 milliards par an, plus encore donc, que le montant de ses impôts de production. Donc, c'est un maquis juridique et fiscal extrêmement complexe, qui est hérité de plusieurs choses. On parle de la raison d'État, du hasard, du clientélisme, toutes choses que vous pourrez retrouver sur l'Institut Montaigne et sur le site TTSO. Anne ?
Oui, moi je ferai juste une petite remarque, parce que c'est vrai que l'histoire des impôts, c'est quelque chose qui est important à traiter. Et en même temps, donc si la France est championne des impôts, elle est aussi championne de l'évasion fiscale, donc ça, il faudrait le rappeler. Et puis, peut-être aussi, quand on parle des impôts et de ce poids si lourd, il faudrait rappeler que ce n'est pas du tout pareil quand on est une grande entreprise et qu'on a les moyens de se payer un avocat fiscal, c'est-à-dire de détourner ces impôts, de profiter des niches fiscales, ou quand on est une PME, une beaucoup plus petite entreprise. Et là, on voit, par exemple, là, que les grandes entreprises paient autour de 9% d'impôts sur les bénéfices. Bon, ce n'est pas l'impôt sur la production, alors que les PME paient autour de 23%. Donc, il y a aussi cette disparité. Et ce serait bien que ça entre un peu dans le débat, cette injustice.
Alors, l'avocat fiscaliste est un investissement. Vous le savez, il y en a partout. Comme je le fus, je peux en parler. Mais j'ai toujours été, moi, choqué par cette évasion fiscale. Et surtout choqué de voir que lorsque l'on sort des dossiers en termes d'évasion fiscale, c'est des groupements de journalistes qui les sortent, absolument pas l'État, le fisc, voire les services dits de renseignement, qui ont parfaitement les moyens, en liaison avec le fisc, de faire de très très belles enquêtes là-dessus. Donc on sent qu'il n'y a quand même pas trop de volonté politique.
Non.
C'est un peu gênant. Allez, troisième bref, et j'en finirai par là. Bien, écoutez, je fais une émission politique qui s'appelle « Ça va mieux ». Donc ça va mieux, hein, ça va mieux pour certains, pas pour tout le monde. Ça va mieux d'ailleurs pour qui ça allait bien avant, hein, faut reconnaître. Donc les cours des banques françaises, les cours de bourse ne cessent de progresser. BNP Paribas nous fait plus 6,8%. Le Crédit Agricole 12% et la Société Générale quasiment 20%. Tout va bien pour eux. Et encore, on nous dit, les actions des bancaires, comme l'on dit, sont sous-valorisées. Mais si les cours montent, c'est parce qu'on a de gros bénéfices. Et les bénéfices de ces banques en 2021, témoignent de ce qu'on pourrait appeler cette résistance économique. Alors, quelques chiffres pour vous faire tourner la tête. Le résultat net du groupe BNP Paribas, c'est 9,5 milliards d'euros. C'est le plus élevé de son histoire. Le Crédit Agricole, lui, a doublé ses objectifs, il a dégagé un bénéfice de 5,8 milliards d'euros. Et puis la Société Générale, qui n'a jamais gagné autant d'argent, a fait un profit de 5,6 milliards d'euros. Alors, toutes choses qui n'arrivent pas par hasard, mais tout simplement parce que ça doit beaucoup, pas que ça, mais beaucoup, à la hausse des frais bancaires et de ce qui est prélevé sous des prétextes aussi divers que variés, pour ne pas dire avariés. Tout va bien pour nos banques.
Oui, on est loin des banques qui assumaient un service public.
Voilà, voilà, voilà. Mais bon, acheter des actions de ces gens, vous allez vous enrichir s'il vous reste encore quelques moyens financiers après être passé à la pompe. Allez, on rentre dans le dur. On parle de l'entreprise et du travail. Et puis comment est née cette idée d'entreprise ? Vous allez nous faire un peu de l'histoire économique aujourd'hui.
Oui, je vais faire de l'histoire économique parce que j'avais envie de parler de la propriété des actionnaires. Et puis je me suis dit que c'était bien dommage de démarrer directement sur ce sujet et que ce serait Bien, d'aborder au préalable le thème de l'entreprise, donc parler de l'entreprise, comment elle est apparue, et donc aussi de la naissance du capitalisme. Parce que l'entreprise s'est construite en même temps qu'apparaissait et se construisait le capitalisme, donc un retour sur son histoire et sur ses différentes formes d'appropriation, je pense, nous permettra de comprendre un peu mieux les enjeux d'aujourd'hui. Donc c'est une mise en perspective historique que je vous propose pour cette émission. La compréhension de l'entreprise peut être largement éclairée, et c'est le parti que j'ai choisi, en passant par l'évolution du sens du travail. Le travail naît pour libérer l'individu des servitudes féodales, des corvées notamment, et il devient par la suite une quantité abstraite, séparée de l'individu, sous la forme d'une force de travail que l'on peut acheter et vendre. Donc grâce au mouvement ouvrier, le travail va obtenir un statut social et politique et une certaine reconnaissance. La financiarisation de l'économie à la fin du XXe siècle va balayer tous ces acquis.
Oui, mais si je vous entends bien, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que le travail aurait été inventé pour lutter contre la féodalité. Mais le travail a toujours existé. Donc c'est un peu une idée surprenante. Est-ce que vous voulez plutôt parler non pas de travail, mais de la nouvelle organisation du travail ?
Oui, alors bien sûr, le travail a toujours existé, mais c'était dans le système féodal, c'est pas ainsi qu'on l'abordait. Et c'est vrai qu'on va voir apparaître par la suite une nouvelle organisation du travail. Dans la société féodale, on a plusieurs classes. On a des marchands, des artisans, des paysans. La plupart du temps, ce sont des serfs, auxquels on peut ajouter des manouvriers, des brassiers.
Manouvriers, c'était les manœuvres de l'époque.
Ceux qui se louaient... ou ceux qui louaient leurs bras, qu'on appelait les brassiers aussi. Donc les mondes de l'artisanat et du commerce sont régis dans le système féodal par des coutumes, par des règles. Les règles des métiers régissent la production, alors que celles des marchands vont régir l'échange. Certains métiers sont soumis au pouvoir royal, d'autres au pouvoir municipal, d'autres encore sont libres, notamment dans les campagnes, où les inspections sont relativement compliquées. Les corporations de métiers ont un rôle important dans la régulation de l'artisanat. Et lorsque les échanges commerciaux vont se développer, les règles du monde artisanal vont être perçues comme des rigidités qui vont freiner l'expansion du commerce. De même, la production à domicile dans les campagnes ralentit la circulation des biens puisqu'elle demande du temps pour que les produits soient fabriqués et reviennent vers les villes. Donc une solution à ces contraintes est de concentrer le travail au sein de manufactures, c'est le mot ancien pour parler d'entreprise. Donc ce sont les débuts du mode de production capitaliste, de l'organisation du travail sous forme capitaliste, la transformation de la production liée au développement du commerce et des échanges marchands. Donc les artisans vont être réunis dans des manufactures sous la supervision des marchands. Et va apparaître une séparation entre la force de travail qui est détenue par les artisans et le capital, c'est-à-dire les moyens de production, la manufacture qui, elle, sera détenue par les marchands.
Donc ça veut dire, Anne, qu'on est face à une nouvelle organisation du travail, si je comprends bien. Et alors ça date de quand et ça va se développer où ? Est-ce qu'on peut géographiquement situer cette nouvelle organisation, cette évolution ?
Alors, ça démarre relativement tôt, ça démarre dès le XIVe siècle. Bien sûr, ça va s'amplifier avec la révolution industrielle et ça démarre dans les pays européens, en Italie, en Angleterre, en France. Par exemple, dès 1338, à Florence, 200 ateliers textiles emploient 30 000 personnes.
C'est colossal.
C'est énorme. Et dans ces manufactures, le travail est divisé par tâches. Donc c'est une organisation du travail, donc on est au XIVe siècle, qui a un caractère déjà qui est capitaliste. Alors cette nouvelle façon de produire qui apparaît sépare le capital et le travail, alors qu'auparavant, ces deux facteurs de production étaient unis dans les mains de l'artisan ou du travailleur à domicile. Donc désormais, c'est le manufacturier qui possède les moyens de production, qui possède la manufacture, et le produit issu du travail.
Et c'est là que ça a commencé à déraper.
Là que ça commence à déraper. Enfin, Pas tout à fait, parce que au départ, on a une nouvelle classe sociale qui apparaît, la bourgeoisie. Donc le cerf devient un homme libre sur le marché du travail, ce qui n'est pas rien tout de même, hein. Petit à petit, la société va être présentée comme une somme d'individus propriétaires qui sont libres et égaux, qui échangent entre eux sur un marché. Mais ça va arriver petit à petit, par la suite. La nouvelle organisation du travail au sein de manufactures détenues par les marchands qui forment la classe bourgeoise n'est pas déconnectée non plus d'un mouvement dont on a parlé lors d'une émission, qui est le mouvement des enclosures, hein, ce mouvement où on a clôturé les terres et où là aussi on a durci la propriété sur un des moyens de production qu'est la terre.
Qui c'est qui a dit à partir du moment où on enclôt un terrain Vous vous souvenez, c'est Rousseau, qui avait dit ça. Oui, celui, le premier qui a clôturé un terrain, qui a dit ceci est à moi, est un assassin. Je crois
c'est voilà. Exactement ce qu'a dit Rousseau, parce que par exemple des auteurs comme Jean-Baptiste Say disaient, si vous voulez arrêter d'être pauvre, il faut durcir la propriété sur les terres. Il faut durcir cette propriété. Il faut louer les terres le plus cher possible. Donc ce mouvement des enclosures, il illustre hein, ce passage de la possession qui est fondée sur les us et les coutumes, la féodalité qui est fondée sur des communautés, à la propriété individuelle qui en fait abstraction et qui est exclusive. Une propriété exclusive, ça veut dire quand je suis propriétaire, je peux vous exclure de ma propriété. Donc la naissance des manufactures, c'est un peu aussi, ça traduit cette évolution dans la liberté d'être propriétaire. Il y a la liberté de déposséder les autres.
Enfin, déposséder les autres, c'est déposséder les autres ou plutôt la volonté farouche de les empêcher d'accéder à toute autre forme de propriété pour les garder quand même un peu sous sa main, les garder asservis, c'est ça ?
Oui, on pourra reparler, notamment quand on parlera de l'actionnariat, de l'asservissement par le travail, mais c'est cela, déposséder les autres, les asservir, donc grâce à la possession des moyens de production. Donc la non-propriété, alors il y a une sociologue économiste qui s'appelle Rolande Pinard, qui travaille beaucoup sur ça et que j'aime beaucoup, qui écrit là-dessus. Donc la non-propriété des prolétaires fait partie du concept de propriété. Pour les ouvriers, la propriété, ça signifie tout simplement vendre sa force de travail. Et donc les paysans qui vont être expropriés par les enclosures vont grossir les rangs de ces nouveaux prolétaires, hein, l'armée de réserve dont parlait Marx. Et les enclosures vont produire une main-d'œuvre pour ces manufactures récentes. Alors, bien sûr.
Récentes et naissantes.
Récentes, naissantes, et qui vont exploser, hein, si je puis dire, avec la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, hein, qui va pousser plus avant encore cette organisation du travail.
Vous voulez que l'on fasse une pause musicale pour laisser digérer ces notions d'enclosure, et puis surtout cette révolution dans l'organisation économique de la France ? France d'ailleurs et des autres pays, hein, puisque
autres pays,
nous n'étions pas une exception particulière. La première pause musicale, c'est vous qui l'avez choisie, alors je vais vous laisser la présenter.
Eh bien, c'est une chanson d'Alain Bachung qui s'appelle « Ma petite entreprise ».
On n'en sort pas alors.
On n'en sort pas, voilà.
Connais pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Jardin nu d'expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, pour partie de la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive. Avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles ma petite entreprise. Que n'est pas la crise, s'expose au firmament. Gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. Coule à mes oreilles ma petite entreprise. Que n'est pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, l'aube à l'aube.
Voilà, Alain Bachung, ma petite entreprise, qui nous ramène au sujet principal dont nous parle Anisla, et de cette révolution industrielle qui est la fin du 18e siècle, conduit à une révolution aussi de l'organisation du travail, c'est ça ?
Ben oui, c'est ça, parce que donc au 18e siècle, il y a cette révolution, on invente le métier à tisser automatique, on découvre l'arbre à caoutchouc, la machine à vapeur, l'ampoule électrique, bon, etc., etc., les turbines hydrauliques. Bon, et toutes ces inventions vont être protégées par des brevets. Donc le brevet, ça va aussi constituer une des premières formes de reconnaissance juridique de l'existence de la propriété des moyens de production.
Et c'est organisé comme aujourd'hui, il y a l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, n'existait pas, j'imagine. Mais...
Ça n'existait pas, mais le brevet existait, et il existait depuis...
C'est l'époque du téléphone aussi, 1861-1876, de l'ampoule électrique. C'est très intéressant, parce qu'à l'époque, il y a eu énormément d'inventions, et aujourd'hui, il n'y a pas d'invention. On ne fait qu'adapter nos inventions à la technologie, la tech dont on parlait hors micro. Mais il n'y a pas aujourd'hui de grandes inventions.
Non, il n'y a pas de grandes inventions, mais on fait de plus en plus de brevets sur des découvertes. Quand vous regardez tous les brevets, par exemple, sur le génome humain, c'est des découvertes. On n'invente pas le génome humain, on le découvre. Et donc, il y a de plus en plus de brevets sur des découvertes et non plus sur des inventions. Et ça aussi, ça peut poser un débat, au moins un débat.
On n'en débattra pas aujourd'hui parce qu'on va vite dériver sur les brevets, sur les médicaments, sur peut-être certains vaccins.
Oui,
on est en plein dedans et on va se poser des questions un peu existentielles qui mériteraient elle seule une autre émission, mais on la fera un jour.
Oui,
on
la fera. On la fera. On pourra parler de l'utilité des brevets, de leur utilité et puis aussi de leur coût pour la société.
Et du domaine public et de ce qui peut finalement le patrimoine de l'humanité.
Voilà. Oui, tout à fait. Alors, bon, si je reviens à mes entreprises et à cette révolution industrielle, donc il y a les brevets qui vont aussi empêcher certains artisans de pratiquer certaines activités. Hein. Par exemple, Richard Arkwright, pour vous donner un exemple, a un brevet sur l'invention du métier à filet hydraulique et il va interdire l'utilisation de ce métier par les artisans. Donc il va exagérer de ce fait la concurrence, hein, parce que pour les artisans qui n'ont pas accès à ce brevet, à ce métier à tisser, eh bien ça va être extrêmement compliqué.
Alors, c'est certainement là la révolution des fameux canuts lyonnais,
oui,
j'imagine.
Qui ont cassé les machines.
Oui, eux, ils ont combattu. Bon, ils ne sont arrivés à rien, mais ils ont combattu.
Ils ont combattu en cassant carrément leurs machines à coups de massue. Alors, cette époque-là, le tout début du 19e siècle, c'est aussi l'invention de ce qu'on, par le droit de ce qu'on appelle le louage d'ouvrage, dont c'est un contrat par lequel l'une des parties va s'engager à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le louage d'ouvrage ou de service est un contrat donc de gré à gré, et ça va permettre une grande autonomie des ouvriers dans l'organisation de leur travail et la mise en place d'équipes autonomes. Mais en même temps, ça va permettre aux ouvriers aussi d'asservir d'autres ouvriers, et notamment des membres de leur famille, leurs femmes ou leurs enfants, pour produire. Et sous certains aspects, bon, peut-être pas en France, mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, avec des entreprises comme Amazon, comment elle agit avec ses employés, eh bien, c'est quasiment du louage d'ouvrage comme on avait au 19e siècle. Hein. C'est-à-dire du paiement à la tâche, pas de contrat de travail, pas de sécurité sociale, rien.
Alors moi, quand je vous entends, je pense un peu à ce qui se passe dans le domaine de la mode, de l'habillement, qui mériterait d'ailleurs une émission, ne serait-ce que la pollution qui résulte de l'habillement, qui est assez fantastique. On en parlera, je pense, un jour sur cette antenne dans l'émission Arcania que je produis. Mais ça me rappelle un peu ce qui se passe dans les produits asiatiques. Le servage n'est pas mort. On voit qu'il y a des enfants de 8, 9, 10 ans et un peu plus âgés qui travaillent. Vous savez, ce fameux immeuble qui s'est écroulé. Et c'est là où on a découvert, ou fin de découvrir, qu'il y avait de l'esclavage au profit des grandes marques qui vendent sur le marché européen. Finalement, vous nous parlez d'histoire, mais on est en plein dans l'histoire moderne.
Oui, on est en plein dans l'histoire moderne, et c'est pour ça que c'est intéressant l'histoire, parce qu'on voit, on peut faire des liens entre ce qui se passait au 18e, au 19e siècle et ce qui se passe aujourd'hui, et voir qu'en réalité, les évolutions ne sont pas toujours aussi belles que ce qu'on a envie de le dire. Alors, donc on a...
Ça dépend pour qui.
Ça dépend, oui.
c'est toujours borré.
Ça dépend pour qui. Mais bon, donc on a un asservissement qui va apparaître dans la relation de travail, et c'est le mouvement ouvrier qui va s'imposer comme une force sociale et politique dans la société et qui va obtenir une reconnaissance de cette subordination, de cette asymétrie des droits et des pouvoirs, et qui va obtenir cette reconnaissance dans le contrat de travail.
Ah, ça, c'est un terme nouveau. Le contrat de travail, ça n'existait pas jusque-là. Non. Donc ça veut dire que le droit, finalement, peut aussi venir au secours de ceux qui en auraient besoin, des travailleurs ?
Eh bien oui, le contrat de travail, il a été mis en place avec le droit du travail à la fin du 19e et au début du 20e, et c'était justement pour protéger ceux qui travaillaient, pour protéger les travailleurs.
Alors c'est quand même qu'un contrat, dans un contrat, les deux parties normalement doivent être à égalité, mais il y avait quand même deux poids, deux mesures. Un employeur a plus de poids, de possibilités qu'un en a un employeur qui ne fait que vendre sa force de travail.
Bien sûr, et puis en plus quand...
C'est un début en tout cas.
Voilà, quand on est employé par quelqu'un, ça veut dire aussi qu'on va accepter la façon dont ce quelqu'un, cet employeur, va organiser le travail. Parce que c'est le manager, c'est l'employeur, c'est le dirigeant qui décide de la stratégie, de l'organisation des tâches, de la production, etc. Donc il y a de toute façon une relation de subordination qui se met en place. Même si c'est un contrat et que, soi-disant, dans un contrat, les individus sont libres et égaux. Mais ça, c'est une
théorie.
C'est une théorie, mais c'est, dans la réalité, ce n'est pas ainsi que ça se produit. Et les juristes l'ont reconnu. Et on va avoir, par exemple, la reconnaissance du syndicalisme en 1884. On va reconnaître les accidents du travail, reconnaître que ça relève de la responsabilité patronale en 1898. On va instituer le Code du travail en 1910 et en 1919. Une loi va apporter un premier cadre institutionnel en France, hein, aux conventions collectives. Donc ça aussi, c'est une étape décisive dans la construction du droit de la négociation collective. Donc on va, il va y avoir des grèves, bien sûr, en 1936, on le sait. Et donc on va pouvoir aussi développer le droit à partir de ces grèves et la protection donc des travailleurs. Alors, cette, ce contrat de travail, cette création juridique, elle va s'accompagner aussi de la création d'une fonction au sein de l'entreprise, qui est la fonction d'employeur, c'est-à-dire celui qui organise, celui dont on parlait à l'instant, hein, celui qui organise le travail.
Oui, mais ça, donc c'est le chef d'entreprise, c'est ça. Mais il y a quand même toujours eu un patron dans une entreprise. C'est pas nouveau. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui organise le travail, qui trace une stratégie et qui s'y tienne.
Oui, mais ce qui va changer, c'est qu'on va distinguer celui qui fonde l'entreprise, le fondateur de l'entreprise, le créateur en quelque sorte, et puis l'employeur, où on va distinguer celui qui détient le capital et celui qui manage.
Alors on en arrive à quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui finalement, qui est la séparation avec ceux qui attendent des dividendes, et on en parlait un peu des banques et des dividendes qu'ils peuvent servir compte tenu de leurs bénéfices, et puis des autres.
Oui, et là on a en quelque sorte une division du travail, une division des fonctions au sein de l'entreprise. Et au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, mais au début du XXe siècle, celui qui a le pouvoir d'organiser, et ça va complètement être changé à la fin du XXe siècle, mais au début du XXe siècle, celui qui a le pouvoir d'organiser, c'est l'employeur, c'est le manager.
Mais avec certainement un cahier des charges qui est tracé par ceux qui possèdent l'entreprise, ceux qui en attendent en retour des placements qu'ils ont faits.
Pas forcément. Non. D'abord, personne ne possède l'entreprise, hein, puisqu'en droit...
Oui, ça c'est le droit, mais en réalité, on sait quand même qu'il y a des gens qui attendent des dividendes, parce que c'est comme ça que ça marche.
Oui, aujourd'hui. Mais je vais vous raconter alors une anecdote. C'était en 1909 ou en 1910, je ne sais plus.
Vous l'avez vécu personnellement?
Non, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais des actionnaires vont mettre... Henry Ford, devant les tribunaux.
Ah.
Et les actionnaires vont dire, vous ne nous versez pas assez de dividendes. On veut plus de dividendes. Donc, ils vont mettre Henry Ford devant les tribunaux. Et Henry Ford va dire, mais attendez, moi, je dirige une entreprise. Et dans une entreprise, certes, il y a des actionnaires, mais il y a aussi des salariés. Donc, moi, j'organise la production. Et dans ma fonction, certes, il faut que je verse des dividendes, mais... J'ai d'autres fonctions en tant qu'employeur. Je dois aussi verser des salaires et si possible, des salaires qui soient aussi valorisés parce que plus les salariés auront de salaire, plus ils pourront acheter mes voitures. Et j'ai une troisième fonction, donc les dividendes, le salaire, et une troisième fonction, il faut que j'améliore les voitures que je produis, donc que j'investisse dans la recherche, le développement, que j'améliore en permanence le produit que je fournis. Parce qu'une entreprise, c'est un projet productif. C'est une communauté qui se met ensemble dans un projet, dans une entreprise, hein, comme son nom l'indique au sens étymologique du terme. Et à l'époque, Ford gagne le procès. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il gagne.
Oui, aujourd'hui, il a gagné.
Aujourd'hui, de toute façon, il serait évacué par les actionnaires avant.
Bon, on l'a vu sur un certain chef d'entreprise d'un grand groupe là dernièrement qui avait idées qui, ma foi, étaient parfaitement respectables. Et bien, on l'a dit d'aller... les appliquer ailleurs. Ça veut dire qu'on est en pleine régression par rapport à l'époque de Ford ?
Oui, je pense qu'on est en pleine régression par rapport au début du XXe siècle. L'entreprise, ce n'est plus du tout la même chose. Ce n'est plus du tout conçu aujourd'hui comme un projet collectif, un projet porté par une communauté, un projet collectif pour produire un bien ou un service. Aujourd'hui, une entreprise, c'est davantage... un produit liquide qu'on peut acheter et vendre sur un marché boursier.
Oui, ben à ce moment-là, ça veut dire que le dirigeant de l'entreprise n'est plus qu'un rouage et que sa fonction est devenue beaucoup plus étroite, beaucoup plus encadrée et que donc tout le monde va y perdre.
Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que je comptais voir la prochaine émission parce que je n'aurai pas le temps de tout voir, mais je commence à mettre un peu de suspense.
On ne veut pas déflorer.
Mais c'est vrai qu'on va, à partir des années 70, hein, c'est-à-dire quand on bascule dans ce qu'on appelle le capitalisme financiarisé, donc on va aussi financiariser les stratégies des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va chercher des règles, des incitations pour que tous les intérêts dans l'entreprise, que ce soit les intérêts des salariés, que ce soit les intérêts des managers, que tous les intérêts s'alignent sur les intérêts des actionnaires.
Est-ce que ce que vous nous expliquez, là, c'est purement franco-français ou est-ce que c'est un mouvement général ?
Non, c'est un mouvement mondial. Hein.
On regarde l'Allemagne, par exemple, les salariés, on y viendra certainement la prochaine fois, mais les salariés sont quand même très présents au niveau, assez présents, on va dire, je vais relativiser, au niveau de la direction de l'entreprise et des choix.
Ils sont à 50% dans les conseils d'administration.
Voilà, ce qui n'existe pas chez nous.
Ce qui n'existe pas chez nous, ce qui existe en Allemagne et puis dans d'autres pays du Nord, hein, ce qu'on appelle les pays du Nord, comme la Suède. Donc là, il y a une codétermination qui existe dans ces pays-là. Et ce qui est étonnant, je trouve, c'est que ça existe aussi depuis le début. Hein, comme chez nous, on a des coopératives, par exemple. Donc, il y a des systèmes où il y a une codécision qui est mise en œuvre. Mais ces systèmes-là, ce ne sont pas ceux qui vont se développer en majorité. Ça existe, mais ce n'est pas eux qui sont majoritaires dans l'organisation des entreprises.
Alors, vous qui êtes une observatrice, on demande aujourd'hui d'une parité, donc de plus en plus de femmes chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez pu observer une différence entre un homme qui gère une grande entreprise et une femme qui gère cette même entreprise ? Est-ce qu'il y a une différence de management, une autre approche ou pas ?
Non, j'ai pas de réponse. Franchement, j'ai pas de réponse. D'abord, j'ai pas étudié.
On a eu par exemple Anne Lauvergeon qui dirigeait l'entreprise que l'on sait. Est-ce que le management des femmes est différent de celui des hommes, ou est-ce que finalement tout le monde court vers la même chose, c'est-à-dire un maximum de dividendes?
Je pense qu'il y a pas de différence entre les hommes et les femmes, du moins pour l'instant, sauf peut-être quelques cas particuliers, mais bon, il faudrait que je cherche des exemples.
Vous nous chercherez quelques exemples pour la prochaine fois, parce que finalement, trouver. On nous dit il faut des femmes, mais pourquoi pas, hein, moi je suis tout à fait pour. Je n'ai d'ailleurs travaillé, la plupart de mes collaboratrices dans mes cabinets étaient des femmes, et je m'en suis fort bien porté, parce qu'elles ne fonctionnent pas comme les hommes et qu'elles ont d'autres qualités. Est-ce que au niveau de l'entreprise, ça dépend de toute façon le moteur et le but ultime. Si le but ultime est le dividende, évidemment, tout le monde va fonctionner pareil.
Oui, et puis j'ai l'impression que quand ces femmes dirigent des très grandes entreprises, elles sont dans le moule, quoi, dans le moule qui est le même pour tout le monde. Elles vont pas.
Donc elles ont les mêmes défauts que les
hommes.
Donc ça sert à rien de mettre des femmes finalement.
Mais si, ça sert. Oui, ça sert quand même. D'abord parce qu'il faut une égalité. Les femmes représentent 50% de la population. C'est normal qu'elles représentent 50% des dirigeants. Enfin, ça, c'est déjà une règle de calcul. Et donc c'est normal. Et puis petit à petit, est-ce que ça va modifier le moule ? Bon, écoutez, je réfléchis à ça
Pour la prochaine fois. Et en attendant, parce que là, je vous ai fait dériver un peu de votre propos initial, on fait une deuxième pause musicale. Alors, vous étiez dans l'histoire. Moi, je vais revenir un peu dans l'histoire de la musique. Je vais vous ramener en 1597, d'ailleurs, avec un morceau d'une pause musicale d'un compositeur et d'un luthiste qui est né en Angleterre ou en Irlande, on ne sait pas trop, qui est mort en 1626, né en 1563, il s'appelle John Dowland, je ne sais pas si je le prononce bien, et je vais vous faire écouter ce que chante Hélène Giacone et son groupe Come Again, qui a été sur cette chanson écrite en 1597. Alors vous allez voir, chanson douce amère, typique de ce compositeur, qui cultivait un vrai style mélancolique. C'est un peu peut-être la mélancolie aussi au niveau de l'entreprise, puisqu'on se pose quand même beaucoup de questions et on est un peu les bras ballants parfois devant certaines aventures entrepreneuriales et certaines décisions. On écoute Hélène Giacone. Sweet love doth now invite.
kiss to die with thee again in sweetest sympathy. Come again, that I may cease to mourn through thy unkind disdain. Weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery.
Voilà la belle voix, comme je le disais, d'Hélène Diacone, qui nous chantait une chanson qui date du XVIe siècle. Hein. Donc, ça nous ramenait un peu en arrière, ça nous ramenait un peu à cette histoire. Mais quand vous me racontez cette histoire, Anne, quand vous nous la racontez, j'ai un peu l'impression que vous nous parlez du présent et pas forcément du passé. Alors, on vient de découvrir avec vous l'émergence d'une nouvelle profession, finalement, les patrons managers un peu dissociés du capital. Comment ces gens ont émergé et comment ils se sont formés, parce que c'est de plus en plus pointu, de plus en plus spécifique. Alors j'imagine que on les choisit pas par hasard.
Eh bien, bien sûr, on va pas les choisir par hasard et on va on va créer des écoles pour former ces nouveaux chefs d'entreprise, donc qui ne sont pas forcément, hein, je le répète, qui sont pas forcément les actionnaires, les propriétaires du capital.
Ce qu'on appelle des mercenaires.
Oui, on pourrait les appeler comme ça, si vous voulez. Moi, je pense à un, par exemple, c'est Henri Fayolle, qui est l'un des premiers ingénieurs en France à accéder à la direction d'une grande entreprise sans être ni actionnaire ni fondateur. Il sera le directeur des houillères de Commentry en 1866. Donc, pour ces missions de chef d'entreprise, elles vont concerner donc tout le processus d'organisation des hommes et de gestion des ressources. Et ce chef d'entreprise, donc, il va devoir prévoir, organiser, constituer le corps social, commander. Sa mission, elle est avant tout créatrice. Hein, il faut créer un nouvel usage des ressources disponibles, proposer nouvelles stratégies. Donc, on considère à cette époque-là que l'entreprise est un système créatif qui requiert des salariés, qui requiert aussi du capital, qui requiert, voilà. Il y a tout un ensemble de fonctions. Et donc, on va créer les premières écoles en 1881. C'est la première business school aux États-Unis, école de commerce. En 1881, c'est aussi l'école des hautes études commerciales de Paris, HEC. En 1908, c'est le Harvard Business School avec le Master of Business Administration, le MBA,
donc, tout ça etc. Tout ça n'est pas nouveau. Quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des choses modernes, mais en réalité, c'est très vieux. Ça a plus d'un siècle. On est sur les 120 ans, là.
Oui, c'est ça. C'est ça. On est vraiment à la toute fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et ces chefs d'entreprise, ils vont être quasiment investis d'une mission de service public. Donc ça... On va les former dans cette idée de progrès collectif.
Ça, c'est la théorie, etc. Parce que le service public, c'est plutôt le service privé, quand même.
Oui, c'est service privé, mais ils ont quand même une utilité publique dans la société qui est relativement importante. Alors, ce chef d'entreprise va être aussi le seul à pouvoir organiser les divers services de son entreprise, le seul juge des moyens propres à sauvegarder les intérêts de son entreprise. Ce sont des décisions, par exemple, de la Cour de cassation française dans les années 30 qui va préciser cette fonction-là.
Ce qui n'est pas en soi hérétique, parce que on peut pas diriger en collégialité, c'est très compliqué. Donc il faut qu'il y ait un patron qui monte sur la table et qui dit « moi j'ai une vision, on va aller là avec tel moyen et puis vous allez bosser, vous allez me suivre ».
Oui, c'est exactement ça. Vous allez me suivre, vous les salariés et vous, les actionnaires. Hein. Les deux doivent suivre. C'était l'histoire que je vous racontais sur Henry Ford.
Il y en a certains qui sont obligés de suivre, d'autres un peu moins.
Oui, aujourd'hui, oui, certes, mais bon. Donc, on a un contrat de travail qui va prendre progressivement pied dans la réalité du travail au cours de l'entre-deux-guerres, donc dans un contexte d'industrialisation qui va s'accompagner d'une croissance de près de 2 millions de salariés dans l'industrie en France. Et après la Seconde Guerre mondiale, les comités d'entreprise vont instituer une représentation du personnel. Donc, en 1946, au sortir de la guerre, est mis en place, on le sait tous, hein, le régime général de sécurité sociale, mais dont la gestion est ouvrière. Ça, souvent aussi, on l'oublie, ce sont les travailleurs qui élisent le directeur de la, enfin, qui élisaient le directeur de la caisse. Ils gèrent la moitié du budget de l'État, et le tiers de la masse salariale, ce qui est quand même pas rien. Et des années 50 aux années 70, va se développer ce que les économistes qualifient de régime d'accumulation fordiste ou de capitalisme fordiste ou de capitalisme contractuel. Donc ce régime, ce capitalisme qui caractérise ce qu'on appelle les 30 glorieuses, hein, où il y a en fait un contrat plus ou moins explicite entre les différents partenaire du système productif, où on va se partager la valeur ajoutée, etc. Et ça, ça va complètement basculer eh bien, à partir des années 70. On va basculer dans une autre forme de capitalisme.
Et c'est là que va arriver le fameux ruissellement. Donc, il faudra parler un jour ou l'autre.
Oui, on va parler du ruissellement.
Le ruissellement est modéré. Oui. On sait qu'il ruisselle, mais en sens inverse.
Oui, voilà, il ruisselle, enfin, je ne sais même pas s'il ruisselle.
Il ruisselle peut-être pas du tout,
d'ailleurs. Il ruisselle peut-être pas du tout. À mon avis, voilà, ça arrive en haut, mais ça ne ruisselle pas, ça s'arrête. Il doit y avoir quelque chose.
Une retenue, un barrage
quelque part. Et c'est vrai qu'on va, à partir des années 70, favoriser la finance, parce que c'est la finance qui finance l'économie. Donc, il faut la développer. Mais en réalité, ce que l'on va faire, c'est qu'on va financiariser l'économie et donc donner les pleins pouvoirs dans ces grandes entreprises aux actionnaires et plus aux chefs.
De là vient un grand dérapage et tout le mal, mais ça, si j'ai bien compris, c'est le prochain épisode, Anne.
Ah oui, parce qu'on en a beaucoup à dire là aussi.
Bon, alors on va attendre, on va réfréner notre impatience, voilà. On va attendre. Allez, l'heure avance à grands pas, grandes secondes, devrais-je dire. Un mot sur l'économie en Occitanie, quelques impôts. Alors l'Occitanie, on se porte bien, hein, ça, il faut le dire. On est sur la mesure à l'aune du produit intérieur brut, le fameux PIB, dont on sait que c'est certainement pas le meilleur indicateur, mais pour le moment, on n'a pas d'autre. on est certainement une des régions qui créons le plus de richesses. Alors de 90 à 2008, le PIB d'Occitanie a progressé hors inflation de 2,3% en moyenne, ce qui veut dire 0,4 points de plus que dans l'ensemble de la France métropolitaine. Donc on est heureux de vivre en Occitanie. Alors seules les économies de la Corse, on ne rit pas quand je parle d'économie de la Corse, ça bosse en Corse et des pays de Loire font mieux. Et depuis la récession 2008-2009, la croissance en Occitanie atteint annuellement 1%, soit deux fois celle de l'ensemble des pays, si on veut bien exclure les départements d'outre-mer. Là encore, seule la Corse affiche de meilleurs résultats, mais bien sûr sur des volumes moindres. Et en Occitanie, la croissance de l'économie est quasiment interrompue depuis 25 ans. Bon, elle a été affectée bien sûr par la crise financière de 2008, comme tout le monde, mais dès 2011, le PIB régional a retrouvé son niveau de 2008, et l'emploi suivi en augmentant de 30% sur les 25 dernières années. Meilleur score régional, mais toujours après celui de la Corse. On moque beaucoup la Corse, mais finalement, la Corse a de bons résultats économiques. Alors, je disais que l'emploi suit, c'est vrai, mais il y a donc de la croissance, mais nous avons quand même toujours beaucoup de chômage, un chômage endémique, les créations d'emplois sont nombreuses. Mais quand même, la région, depuis entre 2008 et 2016, est la seconde en France métropolitaine, toujours derrière la Corse, pour le taux de croissance de l'emploi. Et pourtant, notre taux de chômage progresse de 2,9 points au quatrième trimestre 2008 jusqu'à celui de 2016. Pour l'instant, comment peut-on expliquer ça ? Bien, ça tient pour partie à l'attractivité de l'Occitanie, qui suscite de nombreuses installations, puis dans une moindre mesure à l'impact des réformes des retraites qui prolongent les durées d'activité. Donc nous avons également une plus grande participation des femmes au marché du travail d'Occitanie comme dans d'autres régions, mais notre taux de chômage atteint 11% en moyenne annuelle, je vous parle de 2017 en Occitanie, alors qu'il est de 9,1% dans l'ensemble de la France métropolitaine. Donc ça reste quand même important. Beaucoup de gens viennent chez nous. Notre économie progresse, mais tous ceux qui arrivent ne peuvent manifestement pas y être employés. Donc notre taux de chômage, paradoxalement, est élevé.
Oui, le taux de chômage est élevé. Et en même temps, on en parlait lors d'une émission précédente, il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus. Donc il y a une certaine...
Oui, il y a une inadéquation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui nous disent, ben, on n'arrive pas à trouver. Alors soit les salaires ne sont pas assez attractifs, et ça on peut le comprendre, et c'est la vérité, soit il y a des gens qui ont envie de vivre différemment et peut-être de travailler moins ou pas dans les mêmes conditions.
Voilà, les conditions de travail aussi posent problème et font qu'il y a une inadéquation entre les demandes d'emploi, les propositions d'emploi. Et c'est dommage, et c'est vrai qu'on a une croissance qui est importante, et ce serait bien d'utiliser cette croissance justement pour pouvoir essayer de remettre en adéquation l'offre et la demande d'emploi, pour essayer aussi de transformer la croissance en croissance plus durable, plus verte, etc. Et bien sûr, c'est dommage que cette croissance soit... en partie due au fait qu'on travaille plus longtemps, alors qu'il y a des jeunes qui sont toujours en attente de travail.
Oui, qui attendent pas de la porte. Devant la porte, notamment celle de la NPE.
Oui.
En dernière rubrique, quelques conseils, lectures, films, expositions, magazines. Vous, c'est plutôt le livre. Moi aussi, ce sera le livre tout à l'heure.
Oui, moi c'est plutôt le livre, et puis pour une fois j'ai choisi un livre qui n'était pas d'économie, quoique.
Pour en sortir un peu. Hein.
Pour en sortir un peu, alors un livre qu'on m'a offert à Noël, et que j'ai dévoré, j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est le livre de Lydie Salvert, Rêver debout. Donc ça redonne le moral, l'envie de se battre.
Et puis rêver debout, c'est bien, parce que là, on sait qu'on ne peut plus boire que debout, sinon debout ou assis, je ne sais plus.
Maintenant. Ah ça y est, on peut faire tout ce
qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut maintenant.
On boit dans la position que l'on veut, ça y est, on est de nouveau libre de boire. Donc dans cette période aussi où il y a des élections avec des candidats qui n'ont qu'une vision étriquée de notre société... heureusement, pas tous les candidats, mais beaucoup, et qui à chaque phrase nous répètent inlassablement « on ne peut pas car la dette, on ne peut pas car le chômage, etc. Bon, on ne peut pas en raison des lois économiques. » Alors, comme vous savez, moi, je ne crois pas tellement aux lois naturelles de l'économie. Je crois que l'on peut et que l'on peut beaucoup. Et donc, dans ce livre, Lydie Salvert interpelle Cervantes et lui dit « Pourquoi, monsieur, expliquez-moi pourquoi vous moquez-vous de votre Quichotte lorsqu'il ne s'accommode pas de ce qu'on appelle, pour aller vite, la réalité ?» Donc elle interpelle Cervantes, ce génial inventeur de Don Quichotte, dans une suite de 15 lettres, essai tour à tour ironique, cinglant, cocasse, tendre. Elle dresse l'inventaire de ce que le célèbre écrivain espagnol a fait subir de mes aventures à son héros, pourfondeur de moulin à vent. Et elle convoque ainsi l'auteur de toute une époque pour mieux parler de notre époque aujourd'hui. L'autrice brosse le portrait de cet homme révolté par excellence, animé par le désir farouche d'agrandir une réalité étroite et inique aux dimensions de son rêve de justice. Un rêve qui, je trouve, n'est pas si inaccessible que cela. Donc c'est un livre manifeste tant qu'un vibrant hommage à un héros universel et à son créateur.
Alors c'est vrai que Don Quichotte, c'est pas nouveau. On en parle beaucoup et peu de gens l'ont lu, mais on ne peut que leur recommander la lecture à côté de celui du livre de Lydie Salvert. Bon, après, effectivement, cet idéal de justice, on le poursuit tous depuis tellement longtemps. C'est un peu comme la ligne d'horizon. Au fur et à mesure qu'on avance, ça s'éloigne. Mm-hmm. C'est un peu, ouais, parfois désolant. On a des fois envie de baisser les bras, mais on est des combattants. Donc, on poursuit notre effort. Alors moi, je vais vous parler de notre livre qui est tout à fait récent, qui s'appelle Connemara, chez Actes Sud, de Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, vous le connaissez. Il y a 3 ans, il a eu un Goncourt et puis il revient avec... un très très beau livre qui raconte en parallèle la destinée de 2 personnages. Alors, ils habitent dans l'est de la France, qui est sa région, des personnages de la France profonde, hein, qui sont en quête de bonheur, qui vont évoluer, qui vont vivre, qui vont partir, revenir, se retrouver, et qui vont connaître, eh bien, comme nous tous, des désillusions professionnelles et personnelles. Connemara, c'est une histoire des comptes que l'on règle avec le passé, avec le travail d'aujourd'hui, avec les fameux PowerPoint, les open space, comme on dit. C'est quelqu'un qui... on voit des gens qui participent à la formation de ces dirigeants dont on parlait tout à l'heure. On est en plein dans notre sujet, là. Et c'est surtout le récit d'un tremblement au milieu d'une vie, de la vie des personnages, dans un décor qui est bien planté. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait là ? On a envie de tout refaire. On se pose beaucoup de questions, et puis finalement, on rentre quand même un peu dans les rangs. Et puis le récit d'un amour qui se cherche par-delà les distances d'un pays. On chante Sardou, hein, Connemara, c'est Sardou. Et puis voilà, toute l'histoire de vote, de la vie quotidienne des uns et des autres. Et puis surtout, Connemara décrit, et notre auteur connaît bien le sujet, avec énormément de justesse, le vernis de cette France des périphéries urbaines qui bouge beaucoup, là où sont nés nos gilets jaunes, hein, des catégories sociales pas tout à fait populaires, pas vraiment classe moyenne non plus, celle des pavillons et puis celle qui aujourd'hui connaît la vraie angoisse du lendemain, surtout d'ailleurs quand elle passe à la pompe. Hein, Anne, oui. Voilà, donc je vous rappelle les 2 titres, Vous avez rêvé debout de Lydie Salvert au Seuil et puis Connemara, Nicolas Mathieu, Actes Sud, ça vient de sortir, c'est bien pour les vacances. Vacances que vous allez prendre, hein, puisque je crois que vous allez chausser les skis bientôt. Donc, on va vous souhaiter de très bonnes vacances. Et puis, on vous attend au retour pour nous parler de la grande saga de l'entreprise et surtout de l'émergence de ces actionnaires qui ont un peu la main sur tout, qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps pour le grand dam des travailleurs et puis un peu de l'humanité quand même qui manque singulièrement dans les entreprises aujourd'hui.
L'humanité, la planète, le climat.
Voilà, bon, on va pas trop vous en dire parce que sinon on va vous gâcher la journée quand vous aurez écouté. C'était Economica, une émission de Anne Isla et de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiphaine Lemen que l'on remercie. Vous allez retrouver le podcast de cette émission, mais sur le site avec tous les autres podcasts également. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Economica. Et la prochaine fois, donc, Anne va vous expliquer que ces fameux actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise et d'après elles ne l'ont jamais été. Il va falloir qu'elle nous le démontre, hein, c'est une gageure. Belle journée à toutes et à tous, et si vous y êtes ou si vous y partez, belles vacances. Au revoir.
Au revoir. Anne.